On commence par les titres.
Et ma voix à moi.
Oui, et votre voix à vous, Benoît Bouscarel. Chantez.
Bonjour.
Bonjour.
L'opposition des députés wallons au CETA, le traité de libre-échange Europe-Canada, peut être surmontée ce matin à Luxembourg. Les ministres européens du commerce ont voulu se rassurer suite au veto wallon. Veto qui empêche la ratification de l'accord par la Belgique et la commissaire européenne au commerce d'assurer que la semaine prochaine, on pourra signer la déclaration avec le gouvernement canadien. Correspondance de Quentin Dickinson dans le journal tout à l'heure et réaction d'une députée régionale au Parlement wallon. Un geste de bonne volonté de la part de la Russie pour Alep. Ce matin, l'arrêt des bombardements russo-syriens sur les quartiers rebelles de la ville a été présenté comme une preuve de cette bonne volonté. En réalité, cet arrêt des bombardements qui font chaque jour des victimes civiles est une façon de préparer la trêve annoncée pour jeudi. Correspondance tout à l'heure de Marc Crépin depuis Moscou. À Mossoul, la progression des forces irakiennes et kurdes se fait pour l'instant aux abords de la ville. Elle est rapide, notamment dans la plaine de Ninive. Une relative facilité qui ne laisse rien entrevoir de ce qui attend les combattants à l'intérieur de la ville. Explication d'Éric Biegala qui suit la bataille de Mossoul pour nous tout à l'heure dans le journal. Et puis la grève est reconduite à Itélé. Un deuxième jour d'arrêt de travail voté à une très large majorité ce matin alors que l'équipe de Jean-Marc Morandini prépare, elle, sa deuxième émission. Ce qui est évidemment perçu comme un pied de nez par les journalistes qui refusaient la venue de l'animateur sur leur antenne. Le point sur la crise à Itélé tout à l'heure avec Catherine Pétillon. Et puis l'invité du journal sera Alexandre Malafaï, président de Sinopia Think Tank qui se mobilise et qui mobilise les citoyens dans la perspective de l'élection présidentielle. À tout à l'heure, Olivia.
À tout de suite. On vous retrouve à midi et demi pour le journal développé, Benoît Bouscarel. Bonjour à tous. Comme un mardi, faisons les comptes avec Olivier Rey qui analyse comment les statistiques ont pris le pouvoir de nos vies dans « Quand le monde s'est fait nombre », un ouvrage, un essai qui vient de paraître chez Stock. Elles sont partout. Le mathématicien et philosophe se demande pourquoi et quel regard biaisé elles nous offrent sur le monde. Ce sera à partir de 12h55. Olivier Rey sera le second invité de la Grande Table. Mais d'abord, donnons de la voix avec Marie-Nicole Lemieux, chanteuse lyrique, invitée du Musée d'Orsay dans le cadre de l'exposition spectaculaire « Second Empire ». Un récital pour évoquer les fleurs du mal, la poésie de Baudelaire, mise en musique par Debussy, Duparc, Chausson, entre autres. La Québécoise est l'invitée de la première partie de la Grande Table. On la retrouve dans un instant, juste le temps de faire quelques vocalises, un petit tour. Et puis voilà, à écouter, à réécouter, en direct ou sur franceculture.fr et aussi en live au Canada.
La Grande Table. Olivia Jesbert.
Acte 2, scène 13, victoire de la musique il y a 10 ans pour l'Orlando Furioso de Vivaldi. Chanteuse lyrique, la contralto canadienne est en ce moment à Paris. Après avoir chanté sous les baguettes de Daniele Gatti, de Jean-Christophe Spinozzi, de René Jacobs, elle continue à se balader du baroque au bel canto, de la musique de chambre à la mélodie française. C'est dans ce dernier répertoire que vous pourrez aller l'écouter jeudi. Marie-Nicole Lemieux est actuellement en tournée européenne et à Paris pour un récital au Musée d'Orsay dans le cadre de la grande exposition spectaculaire Second Empire, annoncé jusqu'au 16 janvier, le Second Empire, période pleine qui durera 18 ans, instauré après un coup d'État de Napoléon III, c'était le 2 décembre 1852, et je tiens presque une rime, Marie-Nicole Lemieux, bonjour.
Hein? Bonjour.
Mais alors vous étiez Orlando,
oui.
Un homme.
Ah bah oui, c'est quelque chose de fréquent dans le monde baroque. C'était à la mode de faire chanter des rôles d'hommes par les femmes. En fait, pour une raison tout à fait simple, c'est qu'on pouvait voir leurs chevilles. Les femmes avaient toujours des grandes robes et quand elles faisaient des rôles d'hommes, surtout on donnait surtout les rôles d'hommes aux jeunes premières et ainsi elles pouvaient être en pantalon, en haute chose et on pouvait voir leurs chevilles, leurs mollets, ce qui était très agréable pour la jante masculine.
Alors là, dans cet acte 2, on vous entend coup de colère, coup
oui,
de folie.
Oui, là c'était vraiment pleurer, le moment où il devient hein. Voilà, c'était le moment où Orlando devient fou. Il est fou de douleur. Il voit que son amoureuse en fait lui a fait un coup et elle s'est mariée dans son dos et se rend compte de ça et donc il devient fou. Donc c'est tout est entrecoupé. Donc il y a des moments de calme, d'accalmie, il y a des moments de stress, des crises et c'est la beauté de la partition. C'était le défi à l'époque. Quand j'avais fait avec Jean-Christophe Spinozzi, c'était de retransmettre ça, cette espèce de côté. La folie, c'est ça. C'est la folie, c'est pas linéaire. Il y a des cassures. Et c'était le défi, c'était de faire ces cassures-là au milieu des larmes. Parce qu'à tout bout de champ, comme on dit par chez nous, il se met à pleurer. Puis à un moment donné, oh, il revient. Et c'était un beau défi. C'était très exigeant, mais c'était bien beau.
J'ai presque eu peur parce que quand on a lancé la musique, vous avez commencé à mimer, à jouer. Hein,
ah
comme
bon,
si vous étiez à nouveau Orlandais. Vous commencez à me faire la scène de la colère,
mais
la folie.
Non, mais soit
j'ai cru
la
que tout allait être emporté dans une tornade de Marie-Nicole Lemieux.
Mais non, Olivia, je n'aurais pas fait ça.
Bon.
Ça n'aurait été que tourner vers moi-même.
Marie-Nicole Lemieux, dites-nous, on dit que Napoléon III a fait beaucoup pour la musique et pour les arts en général. Des bals, des fêtes, des spectacles, les peintures en témoignent, celles qui sont exposées notamment actuellement au Musée d'Orsay. L'époque, elle était foisonnante de créativité, ça a marqué les débuts d'un renouveau. Une période assez faste dont témoigne l'exposition dans laquelle vous allez vous inscrire à travers ce récital.
Oui, et que j'ai pas eu l'occasion de voir encore parce que je suis descendue de l'avion hier matin. Le musée étant fermé le lundi, j'ai pas pu voir l'exposition, donc j'espère me reprendre cet après-midi ou demain. Et oui, c'est un beau projet autour de cette, comme vous dites, cette période foisonnante. Mais j'aimerais vous apporter un détail très important, c'est que je ne suis pas seule dans ce récital-là. C'est très important, en fait, c'est pas Marie-Nicole Lemieux qui chante Baudelaire, c'est vraiment Alain Carré, comédien, Marie-Nicole Lemieux et Daniel Blumenthal. Et c'est vraiment un récital autour des textes de Baudelaire. C'est vraiment Baudelaire qui est mis à l'honneur. Ce n'est pas moi. C'est vraiment... Alain Carré est allé chercher, j'allais dire, l'irrévérence de Baudelaire. Parce que c'est drôle comme les compositeurs ont préféré les textes plus suaves, les textes sensuels. Ils inspiraient beaucoup les compositeurs de musique, mais il n'y a pas un compositeur qui a mis les textes irrévérencieux de Baudelaire. Et donc, c'est intéressant parce que nous aurons une vision de l'ensemble un peu de la carrière de des œuvres de Baudelaire. Donc ça passe du j'allais dire pas du rire aux larmes parce que des fois ça, oui il y a du rire.
Mais c'est que les fleurs du mal.
Oui mais non voilà. Non, moi les poèmes sont des fleurs du mal, mais Alain Carré par exemple est allé chercher des extraits de correspondance. Par exemple d'une lettre que Baudelaire a écrite justement à l'impératrice Eugénie parce que son recueil avait été mis à la censure. Il avait écrit une lettre pour expliquer un peu sa démarche artistique. Et donc, il va y avoir des extraits de cette correspondance qui sera dite. Il y aura aussi un très drôle monologue de la femme de chambre bruxelloise qui s'occupait, qui avait soin de Baudelaire pendant ses périodes de crise à la fin de sa vie à Bruxelles. Donc ça va être assez intéressant. C'est une formule qui sera on veut le faire sans pause. Donc c'est vraiment poésie, musique, chant. Et on veut vraiment un écrin à Baudelaire.
Bon, mais vous êtes quand même un oiseau pas facile à attraper, Marie-Nicole
Je
Lemieux.
Sais pas,
et
je
maintenant
sais pas.
Que je vous tiens, on va quand même parler un peu de vous et de ce que vous allez y faire.
C'est pas intéressant.
Au musée d'Orsay. Il va falloir. Il faut quand même qu'on raconte que le répertoire que vous allez interpréter, on l'appelle couramment la mélodie française, un répertoire qui date du 19e. La mélodie française est assez beau comme du Gainsbourg finalement, non?
Oui.
C'est un genre littéraire qui a été influencé par le Lied allemand. Mm-hmm. Ça se pratique souvent entre piano et orchestre. Poulenc aimait Éluard. Debussy a épousé les vers de Verlaine. Berlioz a mis en musique Théophile Gautier. La particularité de ce genre, c'est la force, l'importance des mots pour vous, Marie-Nicole Lemieux.
Tout à fait. Vous parlez de Gainsbourg, oui, c'est comme ça que je le vois. Et vous savez, avant de faire de la musique dite classique, je faisais de la variété, vous dites de la variété, chez nous on dit de la chanson française ou de la musique populaire. Et ce passage-là, dans le milieu populaire, dans la variété, m'est resté ce bagage-là de l'importance du texte, l'importance des mots, l'importance de ce que l'on raconte. Et je crois sincèrement, en fait, que le phénomène du Lied, qui est arrivé justement dans la période romantique allemande, c'était aussi l'arrivée aussi des poètes, l'arrivée de la poésie, des poèmes qui étaient transmis aussi partout dans le monde avec je pense à Goethe entre autres, Rückert et donc ce phénomène-là s'est transmis aussi en France et oui, quand on fait de la mélodie française, c'est ce qui est beau. Je trouve que c'est l'union pure de la musique qui exprime les paroles. Et c'est un moment où on raconte des histoires à l'opéra. Bon, il y a la mise en scène, on prend le temps de compter une histoire qui va durer deux, des fois trois, des fois quatre heures. Et dans ce cas-ci, c'est des micro-moments qu'on vit avec les gens. Et c'est très intime. C'est ça, c'est l'intimité qui est particulière à cet art-là.
Mais les mots sont plus importants que dans l'opéra, par exemple, dans la mélodie française?
Ben, si je compare, par exemple, avec le mouvement bel canto, qui est donc un peu avant le romantisme, le bel canto, en fait, le mot n'est pas si important. C'est surtout la voix, la qualité de la voix, les vocalises, les traits qui sont disons plus appréciés. J'ai dit ça avec, mais je parle de ça, mais je bouge, on me voit pas là, mais j'ai un malaise parce que chez moi, j'aime apporter cette espèce d'importance du mot dans le bel canto. Mais on sait très bien que le mouvement bel cantiste, c'était vraiment la qualité de la voix, le son, le souffle, la tenue. Et le romantisme, en fait, a apporté ça. Le romantisme a apporté le sens du drame dans la voix, dans l'action, dans la musique aussi. Là, c'était plus des pom-pom-pom-pom. Il y avait vraiment un discours qui commençait à être en dessous de la voix. Et ça a commencé avec Berlioz, avec Wagner. Et ça s'est propagé plus de façon plus importante, et je pense que c'est ça et l'arrivée de, je pense que la mélodie c'est l'apogée de cette conscience là de l'importance du texte.
Alors vous y chanterez des poèmes des Fleurs du Mal, un recueil qui a été publié en plein pendant le Second Empire, pour la première fois en 1857.
Oui, la poésie, mais la musique était plus tard.
Certains poèmes, de Baudelaire déjà à l'époque seront censurés, le recueil a été très critiqué, la modernité poétique de Baudelaire passe mal aux yeux de certains, il a été traîné à la barre pour outrage à la morale publique, et il a été accusé d'immoralité, et il est finalement quand même devenu immortel avec les Fleurs du Mal. Ces poèmes ont été mis en musique un peu plus tard, par des grands compositeurs. Alors, parmi ceux que vous avez choisi d'interpréter ce jeudi, il y a Le Balcon, Harmonie du soir, Le G2O, Recueillement, La mort des amants, L'albatros, La cloche fêlée.
Non, il n'y a pas
La cloche fêlée.
Non, il y a Le Flacon.
Ah, il y a Le Flacon.
Il y a Le Flacon, hymne, Chant d'automne.
Chant d'automne.
Ouais.
Ça, c'est Gabriel Fauré qui l'avait mis en musique.
Et c'est très bon. Toutes les mélodies sont belles. Je les ai choisies parce que c'était des coups de cœur aussi. Du Parc, je crois que...
Ça, c'est l'invitation au voyage.
L'invitation au voyage et la vie antérieure. Mmh. Deux poèmes aussi assez importants. Et Debussy aussi... c'est le recueillement et l'harmonie du soir. Le jet d'eau. En fait,
le jet d'eau et recueillement.
Ouais, voilà, c'est le jet d'eau et recueillement. En fait, Debussy a fait 5 poèmes de Baudelaire. Moi, j'en interprète 2. Et je trouve qu'il a su. C'est parce que Baudelaire est pas. En fait, comparativement à Verlaine, qui a été mis énormément en musique. Je trouve, si on compare à l'importance de l'œuvre de Baudelaire, qu'il n'y a pas eu tant de mise en musique que ça. Mais je crois que c'est quand même des textes qui ont une certaine complexité. Par exemple, Duparc, dans l'invitation au voyage, c'est magnifique ce qu'il en a fait, mais il a quand même enlevé une ou deux strophes pour entrer dans sa musique. L'Albatros, c'est la même chose de Chausson. Il a enlevé aussi une ou deux strophes pour garder une espèce d'unité. Mais je trouve ça beau parce que ça donne une image aussi de la complexité de l'œuvre de Baudelaire. C'est pas tous les compositeurs qui pouvaient s'atteler à cette tâche-là, de mettre en musique.
Marie-Nicole Lemieux, si je vous donne par exemple le chant d'automne, mais en même temps je pense que vous le connaissez par cœur, vous pouvez nous expliquer comment on passe de la récitation du chant d'automne, pouvait la faire à l'école, au récital.
C'est beaucoup plus facile, hein, j'ai pas besoin. Bon, si vous voulez, elle me passe la feuille. Mais en plus, j'ai pas fait d'école de théâtre, donc ma façon de réciter. En fait, c'est beaucoup plus facile avec le chant parce qu'on a la tenue des notes qui vous portent. Et puis, probablement, vous allez entendre mon accent québécois. Bientôt, nous plongerons dans les froides ténèbres. Adieu, vive clarté de nos étés trop courts. J'entends déjà tomber avec des chocs funèbres le bois retentissant sur le pavé des cours. Et donc, vous voulez me faire chanter, là, je vois bien.
Voilà, j'ai la même strophe, effectivement, chanter.
Bientôt, nous plongerons dans les froides ténèbres. Adieu, vive clarté. De nos étés trop courts. C'est ça.
Je comprends mieux.
c'est pas la même chose. En plus, c'est ça. Je me sens tout pète là.
Vous n'arrêtez pas de répéter que vous n'êtes pas comédienne. En même temps, est-ce que la mélodie française se joue aussi comme un opéra? Il y a un aspect dramatique, il y a une expressivité qu'il faut assumer.
Quand je parle de comédien, je parle de tout l'art de dire les mots sur scène, la diction, la prononciation, le jeu des rimes, de casser. Ça, j'ai pas appris ça. Je suis pas une technicienne du mot. Mais la musique, par exemple, c'est un peu la même chose. Oui, on interprète. Surtout, il faut interpréter, il faut avoir quelque chose à dire. Surtout dans le récital, on n'a rien, on n'a que nous, le piano et la voix. Oui, non, il faut savoir jouer. Mais c'est toute cette technicalité, parler, ça, je l'ai pas. J'ai un grand respect, puis je me sens très mal d'avoir dit de la poésie ça, à la radio. Là. Je me sens pas bien.
Mais pourquoi?
Parce que j'ai un nouveau. J'aime mieux les chats à la chanter.
Bah alors, vous nous dites quand même, Marie-Nicole Lemieux, c'est un autre registre, donc peut-être autre tessiture. Ça, c'est ce que pense en tout cas la mezzo-soprano Anne-Sophie Auter. Écoutez-la. Oui.
Pour les chansons, je chante un autre registre de ma voix, tessiture plus grave, plus confortable, plus naturelle. Sinon, ça peut très vite vient chanteuse d'opéra et ça je ne veux pas avoir ça. Pour la technique classique opéra, il faut que la voix sonne de très loin et on chante avec tous les muscles comme ça. Mais c'est vraiment un travail pour les muscles, compliqué. Mais pour les chansons, je suis très très proche, très près du micro, comme ça, je chante pour le micro directement dans le micro et c'est beaucoup plus décontracté. Et je peux passer des heures dans le studio.
Alors, la Suédoise Anne-Sophie Van Otter, on entend quand même que la mélodie française, c'est aussi un genre très féminin. Hein. Elle, bien sûr, la Britannique Felicity Lott, l'Américaine Jessie Norman, les Françaises Sandrine Pio, Isabelle Druet, toutes soprano d'ailleurs, hein, s'y sont lancées.
Isabelle Druet, mezzo, Sandrine Pio, soprano.
Ouais. Et vous, avec votre contralto, votre grande voix, vous nous faites aussi de la mélodie française. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec Anne-Sophie Van Otter que ça demande une gymnastique, une technique particulière? Est-ce que vous tentez-vous de retenir votre voix d'opéra pour pas qu'elle s'emballe, qu'elle porte trop loin?
Non, je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Quand on fait un récital de mélodie française, par exemple, j'en ai fait un cette année, dans une salle qui a 1500 personnes, c'est le défi. Faut pas commencer à susurrer. Non, pour moi, le chant, écoutez, ça fait 20 ans que je travaille encore avec mon professeur de chant. Le but, c'est que le chant doit devenir naturel. Et plus il devient naturel, plus ça doit être naturel de chanter avec la voix pleine dans tout son corps. Quand elle dit que ça demande des muscles, c'est le contraire. Plus on chante fort, en tout cas moi, plus on est détendu, plus la voix projette. Et en fait, le récital, en fait, c'est juste que moi, je pense à la prononciation. C'est vrai que là, j'ai pas la notion de dire, bon, mais là, je dois projeter énormément la voix, mais il faut quand même la projeter quand c'est dans une grande salle. Parce qu'il faut que les gens qui sont dans la dernière rangée comprennent tous les mots. C'est important pour moi.
Oui, mais il y a aussi le sens de ce qu'on est en train de réciter, de chanter. Mais êtes plutôt une personnalité exubérante.
Oui, ben voilà,
vous le prouvez à chaque instant.
Oui, exactement.
La poésie de Baudelaire, elle est plutôt sombre, nostalgique, mélancolique. Il faut pas essayer quand même de contenir un peu ses émotions pour être dans...
Pas d'émotion, là, vous me parlez de technique vocale.
D'accord.
Donc, c'est ça. Donc, la technique vocale, non, il faut être concentré pour que les mots passent, pour que les couleurs aussi, les couleurs selon ce qui se passe en dessous avec le piano, la mélodie, la musique se passe. Et le reste, ben voilà, c'est une question d'émotion. Et oui, je sais me contenir, vous inquiétez pas sur scène, là, je suis capable de me ramasser. Je dis toujours, je suis pas rendue où ce que je suis rendue si j'ai pas appris à dompter la bête. Oui. Évidemment, quand je chante Recueillement de Debussy, soit sage ou ma douleur et tiens-toi plus tranquille. Je vais pas me mettre à débattre des bras puis à se mettre non, je veux dire c'est une logique, ça va avec l'émotion, voilà. Mais le point où j'étais pas d'accord avec Madame Van Otter, c'était ça, c'était que je vois pas que ça comme une différence de technique, parce que le violon reste toujours un violon, c'est juste musicalement. Et là, c'est vrai qu'il faut qu'on se concentre sur les mots, le verbe. Les paroles dites sont très importantes.
Ou alors, harmonie du soir, voici venir les temps où vibrant sur sa tige, chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Ou les à la mort des amants, hein, Baudelaire toujours, nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux,
et d'étranges fleurs sur des étagères, écloses pour nous sous des cieux plus beaux.
Ou encore, l'albatros, mise en musique par Ernest Chausson, et là, on va pouvoir vous écouter.
Was du so denn?
extrait de leur exquise, un album de mélodies françaises sorti il y a 10 ans, où vous repreniez du Verlaine, du Baudelaire et l'Albatros, donc, hein, qu'on vient d'entendre, Marie-Nicole Lemieux. Quels sont aujourd'hui les compositeurs qui occupent la plus grande place dans votre vie? Il y a Rossini?
Oui, Rossini, Verdi. Cette année, ce sera une année verdienne. Toutes les scènes que je vais chanter, ce n'est que du Verdi. Je m'attendais pas à ça. C'est drôle. Quand on commence une carrière, je pensais pas que j'allais faire une année complètement verdienne. Mahler, que j'aime beaucoup, mais je le chante pas assez. Et évidemment, tous les compositeurs de musique française, donc Duparc, Fauré, j'aime beaucoup, vraiment.
Et alors Verdi...
Et Berlioz aussi. Berlioz, mon cher Berlioz, que je vais retrouver l'an prochain.
Verdi, il y aura le Falstaff, hein, que vous avez interprété à la Scala de Milan avec Daniele Gatti, et qui va revenir à Vienne notamment en décembre.
En fait, c'est ça, c'est une nouvelle production de Falstaff, avec une mise en scène de David McVickers, direction Zubin Mehta. Donc David McVickers, j'ai travaillé avec lui, et Zubin Mehta, ce sera une première. Et c'est bien parce que c'est une nouvelle production, ce qui arrive pas souvent au Staatsoper de Vienne. Alors je retrouve entre autres Ludovic Tézier, grand baryton français et un bon ami, donc je suis très, très, très contente.
Qui avez-vous cité? Ah oui, il y aura la tournée Rossini au printemps 2017.
Tout à fait, avec la sortie du disque.
Vous passerez par Moscou, Albi, Avignon, le Théâtre des Champs-Élysées, à Paris.
Avant ça aussi, il va y avoir Rodelinda avec Karina Gauvin, ma soprano québécoise, mon amie et collègue avec qui, avec Pomodoro, on va faire Rodelinda de Handel à Versailles et aussi aux Champs-Élysées.
Berlioz avec les Troyens.
Oui, vous êtes Cassandre. Ça, c'est une grande prise de rôle aussi. Et Carmen, que je vais venir faire aussi en Versailles. On va me voir beaucoup
Carmen.
À Paris. Oui, je sais.
Mais moi, je veux vous entendre dire l'amour. C'est pas comme ça.
Non, vous voulez pas m'entendre le dire, vous m'entendez chanter.
L'entendre chanter, oui, bon, d'accord. Allez-y. Non, parce que...
Oui, non.
Vous pouvez? Non?
Oh, non, je vais vous garder
l'amour,
tout. L'amour? Non, non, je vais dire quand je vous aimerai, ma foi, je ne sais pas. Ça, c'est tout. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser. Et rien n'y fait, menace ou prière, l'un parle bien, l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais si.
Marie-Nicole Lemieux, oiseau, rebelle, amoureuse, Carmen, ce sera au Théâtre des Champs-Élysées avec vous les 31 janvier et 2 février l'an prochain, en 2017, donc au Théâtre des Champs-Élysées. Et puis ce jeudi, hein, courez, allez la voir, écoutez son récital, voir, oui, parce que vous avez des talents dramatiques, contrairement à ce que vous dites, et entendre, écouter, au Musée d'Orsay ce jeudi avec Alain Carré et Daniel Blumenthal au piano. Un grand merci à vous d'être passé par nos studios. Merci beaucoup.